distinguer personnalité en principe égal et profondément respecté. Je voulais exprimer ma gratitude à l'honorable Emma Ntouzi, qui m'invite régulièrement pour partager certaines réflexions que je conduis dans le cadre de mes travaux dans ce genre d'exercice. Hier à 2h du matin, alors que j'évoquais l'inspiration pour essayer de voir ce que je pouvais coucher sur mon papier dans le cadre de ma propre présentation, j'ai eu le réflexe de lire ma messagerie et de me rendre compte que le professeur Jean-Emmanuel Ponty, initialement prévu pour prononcer cette leçon inaugurale, était indisponible. C'est donc pour cette raison qu'il m'a prié de voir comment est-ce que on pouvait faire une gymnastique pour qu'on puisse, disons, occuper cet espace. Je dois dire que j'ai l'habitude de le dire, je pense à France Fanon, et quelque part, en faisant signe à l'actualité, Fanon disait que l'Afrique avait la forme d'un pistolet. Il poursuivait en disant que la gâchette de ce pistolet se trouvait au Zaïre, ce qu'on appelait à l'époque le Zaïre et qu'on appelle aujourd'hui le Congo démocratique. Il poursuivait, il aurait poursuivi en disant que le jour où le Zaïre allait être stabilisé, l'Afrique allait être stabilisée. J'ignore si cette prophétie a une quelconque valeur, mais je l'évoque pour ancrer par une image qui me parle davantage que cette image du pistolet, c'est que l'Afrique est une question. L'Afrique, lorsqu'on regarde le planisphère, a la forme d'une question. On partage cette image avec le sous-continent latino-américain. Vous serez d'accord avec moi que la forme interrogative du continent africain est plus prononcée. Et donc, il s'agit d'une vieille question qui n'a cessé de nous impliquer et d'intriguer le monde. Une vieille question qui, disons, l'Afrique s'interroge d'abord sur son identité. Et finalement, on a l'impression qu'une part de notre vocation en tant qu'Africain consiste, en fonction des circonstances, à essayer de répondre à cette question. Et l'une des questions, depuis à peu près 30 ans aujourd'hui, c'est la question relative à la problématique de la participation politique. Cette question de la participation politique se trouve d'autant plus en débat depuis qu'on a assisté au nouveau cycle de démocratisation qu'on connaît depuis les années 90. Ici, cette problématique est autant en débat, c'est parce que quelque part, c'est en grande partie l'hypothèse que je vais essayer de dérouler avec vous. C'est parce que, finalement, la politique a fini par être associée dans l'imaginaire collectif à un lieu où se rationalise et se légitime toutes sortes d'exclusions, des exclusions de toutes sortes. Mais cette crise, en fait, de la participation politique, puisque c'est d'elle dont il est question aussi, exprime, de mon point de vue, une crise beaucoup plus large, une crise fondamentale, c'est la crise de la politique, la crise du politique, dans ses perceptions, dans sa philosophie ou dans sa téléologie. Et cette crise plus générale du politique, de mon point de vue, va être recherchée dans ce que j'appellerai, et j'expliquerai rapidement, l'institution agonistique d'un ordre du monde fondée quelque part sur une anthropologie de la séparation et des exclusions. C'est-à-dire qu'on a accepté que, finalement, la vie était une lutte, et donc on doit passer le temps à bagarrer, à s'entretuer, à se faire des guerres. Donc c'est ça que j'appelle un peu, disons, une institution agonistique de l'ordre du monde fondée donc sur une vision du monde qui sépare les gens, qui sépare les sexes, qui sépare les générations, ce que j'appelle l'anthropologie des exclusions et de la séparation, qui en fait n'est pas fondamentalement d'extraction africaine. Et cette situation explique en grande partie, c'est mon point de vue, le vent de pessimisme politique que l'on vit en Afrique de manière spécifique et dans le monde entier d'ailleurs de manière générale, déficit et toute démocratie, critique de la raison électorale, militarisation de la vie politique, émergence des populismes communocratiques, etc., etc. Il faut, par conséquent, refonder de nouvelles formes plus radicales de participation politique en réconciliant, en essayant de réconcilier la politique avec sa vocation primordiale et fondamentale. Ceci passera donc par l'invention de ce que j'appelle les nouvelles épistémologies, les nouvelles cosmogonies du pouvoir et du politique. Et le politique doit donc redevenir le lieu sublime où l'on actualise le bien collectif. Et en interrogeant la matrice primordiale et nucléaire des sociétés et des traditions politiques africaines, je pense qu'il est possible de réactiver ce que j'appelle les zones érogènes du politique. Les zones érogènes du politique pour, disons, réexciter et réenchanter les gens autour de ce lieu que tant de gens tendent à abandonner. Et donc, du coup, ce sera ça ma conclusion, le politique redeviendra comme un régime de soins. Ce n'est plus le lieu où tout le monde bagarre contre tout le monde pour ses propres intérêts, mais ce sera le lieu où les gens prennent soin des autres, prennent soin de la communauté, ou prennent soin du vivant. Et il sera donc, de ce point de vue, un rituel commun de renouvellement du lien et de la solidarité sociale, et non plus le prologue, disons, à un suicide, comme cela se voit chaque fois qu'on annonce une élection dans un pays africain. Et dans cette direction, on le verra, la palabre pour ce que notre estimé compatriote Achille Mbembe appelle aujourd'hui la démocratie substantive pourrait constituer à cet égard un recours à sonder, à interroger et à approfondir. Et donc, je le ferai en deux principales parties. Donc, dans la première partie, je vais essayer d'argumenter le premier argument qui consiste à dire il y a effectivement crise de la participation politique, c'est évident, illustré, mais chacun peut le voir autour de nous, mais que cette crise de la participation politique exprime une crise plus profonde qui est donc la crise du politique et la crise de la politique. Et donc, c'est dans la deuxième partie que je ferai valoir ce que je considère comme des points sur lesquels on doit désormais être plus attentif. Alors, sur ce point, il faut dire que, autant que je me souvienne, quand j'étais petit, je jouais beaucoup au football, j'avais d'ailleurs pour surnom Essuie-Glace. Mais j'étais à l'époque très chétif, petite personne, et la tendance, lorsque deux équipes se constituaient à l'époque, sont les jeunes les garçons, pour s'en souvenir, deux capitaines s'auto-instituaient. Vous étiez au milieu, quelque part, du stade, et le premier capitaine commençait à solliciter, voilà, etc. Et nous qui étions vraiment physiquement pas convaincants, en général, on était oubliés, abandonnés, et donc mis de côté, attendant qu'un costaud se pratique et qu'on nous mette. Et nous, quand on partait à côté du stade, on se consolait, et on avait une expression, on disait, on nous a fait la polée. Les enfants de notre âge qui n'avions aucune conceptualisation de la politique, polette, c'est un diminutif de politique. Faire la polette, c'est exclure quelqu'un. Et donc, on nous fait la polette, donc on nous a exclus. Et donc, depuis cette époque, je me demande pourquoi déjà la politique a tellement eu cette sorte de, a tellement porté cet imaginaire de l'exclusion. Eh bien, on va commencer par un argument inversé pour dire que l'inclusion est une nécessité dans toute vie, une nécessité vitale du fait de la pluralité. C'est-à-dire que nous sommes différents par la taille, par la race, par l'histoire, par la culture, par les mœurs. Et donc, c'est cette pluralité qui fait la communauté des individus. Et en fait, c'est la pluralité qui, quelque part, génère l'égalité. génère l'égalité parce que l'égalité, en général, est structurée autour du principe de réciprocité. C'est ce principe de réciprocité qui très souvent cimente dans la durée le lien social. Parce que l'inclusion facilite et renforce la productivité. La productivité est la base de la prospérité. Et la prospérité elle-même est partagée par un pouvoir. Et ce pouvoir, en fait, ne doit jamais être un pouvoir absolu. Parce que le pouvoir absolu, comme aurait dit un penseur qui a travaillé sur cette question, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est pour ça qu'on a imaginé des contre-pouvoirs. Et ce pouvoir donc doit être surveillé. Et parfois il peut être puni. Et toutes les organisations, toutes les institutions sociales, toutes les sociétés ont essayé d'imaginer ces processus. Je viens d'un anthropologue français, dont j'oublie le nom, qui disait pour qu'une société existe, il faut trois choses. La première chose, c'est comment est-ce qu'on stabilise les, disons, les mécanismes de production et de partage. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on stabilise les codes qui rendent possible l'intercompréhension. Et la troisième question, qui est la question politique, comment est-ce qu'on structure, disons, le régime qui permet de savoir que voici ce qui est permis, voici ce qui est interdit. Et donc, en fait, comme on peut le voir si on interroge l'histoire, partout où il y a eu un pouvoir absolu, ça veut dire que ce pouvoir, en fait, a dû décliner, quel que soit le système que l'on peut imaginer. Et lorsqu'on approfondit un peu le regard, on se rend compte que les monarchies qui ont existé chez nous, qui existent un peu partout, qui ont existé pendant longtemps, les monarchies étaient légitimes. Et les monarchies sont légitimes lorsqu'elles sont des monarchies qu'on pourrait considérer comme populaires. Mais très facilement, la maladie de la monarchie, c'est que la monarchie est guidée par la tyrannie. Monarchie, le pouvoir d'un seul. Lorsqu'une seule personne monopolise le pouvoir et le pouvoir absolu, il est très facile, s'il n'y a pas des instances de surveillance, de contrôle, qui peuvent donc le surveiller, et toutes nos sociétés, vous allez voir le rôle, etc., même si quelqu'un avait mis beaucoup de temps, il y a des mécanismes qui permettent que son pouvoir soit contrôlé, soit codifié et soit structuré. Donc, toute monarchie est toujours menacée par la tyrannie. La tyrannie est une maladie qui menace la monarchie. Tout comme l'aristocratie est menacée par l'oligarchie. C'est ainsi. Des organisateurs, nous souhaitons la bienvenue à Madame la ministre qui vient de nous rejoindre. Je poursuis donc l'argumentaire en disant que, tout comme la monarchie est menacée par la tyrannie, l'aristocratie est menacée par l'oligarchie, et la démocratie aussi a sa maladie, parce que la démocratie est menacée par la démagogie, puisque c'est la compétition, n'importe qui peut venir vous dire n'importe quoi, puisqu'il s'agit de solliciter, disons, les suffrages des gens, c'est différent de la monarchie ou de l'aristocratie. Donc, la maladie de la démocratie, c'est donc la démagogie. Et la participation politique reste donc une nécessité vitale pour toute société. Parce que toute société se construit autour d'un idéal. C'est un idéal de survie qui se visualise dans la conservation de son unité, de son intégrité, de son indépendance, notamment dans la concorde intérieure et la sécurité extérieure. C'est pour cette raison que dans la grande tradition philosophique, depuis son époque la plus antique, mais qui prolonge aussi un certain nombre de visions portées par les sociétés africaines plus anciennes, la politique reste le lieu d'actualisation et de réalisation du bien ultime. C'est ce que Thomas d'Aquin appelait le bien commun, c'est ce que Hobbes a appelé le salut public, c'est ce que Rousseau appelait l'intérêt commun, c'est ce que Hegel a appelé le bien de l'État, c'est ce que Alexis de Tocqueville a appelé le bien du pays. Or, ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'on observe un peu la trajectoire des sociétés africaines, en tout cas dans leur histoire récente, ce qu'on a sous nos yeux n'est pas nécessairement ce que je viens de décrire. Ce n'est pas nécessairement cette sorte d'idéal autour duquel l'on crée un consensus. C'est-à-dire que la problématique du bien commun, du salut public, de l'intérêt général, du bien du pays, est quelque part en discussion et en débat. Et finalement, ce à quoi nous assistons, c'est l'explosion des inégalités, c'est l'explosion, ou en tout cas, des situations de rareté, ce qu'on appelle la crise économique, avec tout ce que cela induit, en termes de pauvreté, de précarité, de vulnérabilité. À tout ceci s'ajoutent donc toutes ces formes d'instabilité et d'insécurité qui structurent le quotidien de nos sociétés. Et devant ces difficultés qui tendent à ne pas disparaître de notre horizon, on commence à se poser la question : à quoi servent les politiciens ? À quoi sert la politique ? À quoi nous servent ce que nous élisons ? Et devant cette question extrêmement complexe, à un moment donné, bien sûr, il y a presque 30 ans, nous avons tous, disons, accueilli dans l'enthousiasme populaire ce qu'on a appelé le nouveau processus de démocratisation. Et la démocratisation est apparue comme, en quelque sorte, l'utopie postcoloniale qui succédait aux luttes pour les indépendances. Et tout le monde, et beaucoup d'entre nos frères, nos compatriotes, etc., ont parfois perdu leur vie, et beaucoup ont compromis leur vie et continuent de le faire parce qu'ils croient effectivement en la démocratie. Sauf que 30 ans plus tard, on revient à cette interrogation lancinante. À quoi servent les politiques ? À quoi sert la politique ? Est-il encore intéressant ? Est-il encore nécessaire, disons, de s'engager ? Faut-il même encore participer ? Et ces formes de participation vont donc connaître une crise importante. Et on va donc assister à toutes les choses que je venais d'évoquer tout à l'heure, je ne vais pas réinsister. Et ce vent de pessimisme politique va donc être structuré par le fait que l'idéal démocratique dans lequel beaucoup avaient investi un espoir, comme une sorte de deuxième indépendance, cadre pour créer des conditions, disons pour créer des conditions d'une vie conviviale, d'une vie sereine de partage, une vie où chacun a sa place et où chacun s'exprime, tout le monde a fini par échanger. D'où ce à quoi nous assistons aujourd'hui, en termes donc de pessimisme politique. Il y a un peu partout en Afrique, dans certains endroits, on applaudit des coups d'État. Nous avons un coup d'État. Sans embâche, il n'y avait personne, d'abord pour avoir pitié du président qui, apparemment, venait d'être élu, et tout le monde semblait dire mais c'est tant mieux. Et au Cameroun, on a vu des gens se dire est-ce que ce ne serait pas une solution ? On a vu un très grand écrivain à l'époque, ça a suscité beaucoup de polémiques, fantasmant la mort de Paul Biya. Et on a d'ailleurs, moi personnellement, j'ai étudié cette rumeur, la rumeur la plus spectaculaire de l'histoire politique du Cameroun, le président Biya serait mort dans une clinique à Genève. C'était déjà en 2004. et le succès social de cette rumeur a fini par me faire penser que peut-être que finalement, une grande part des imaginaires de l'alternance politique au Cameroun sont bloqués dans cette affaire. Ce régime de la fatalité, peut-être quand il mourra, peut-être c'est en mourant, peut-être non. Ça exprime quelque chose de terrible qui en fait tente de rationaliser quelque part ce qu'on pourrait appeler la militarisation de l'adversité politique et la militarisation de la vie politique. C'est-à-dire qu'on commence à se dire peut-être que la raison des armes peut aider à nous permettre de réguler les contentieux que les armes de la raison n'ont pas pu gérer. Ça veut donc dire qu'il nous faut interroger cela en profondeur. Et pour l'interroger, ça me permet de passer à la deuxième grande phase de mon intervention. Ça veut dire qu'il nous faudra absolument fonder de manière radicale la réflexion autour de cette crise explicite et manifeste. Cela passera donc par une première opération. Et cette première opération va consister à déconstruire ce que j'appelle, disons, une anthropologie agonistique qui s'est instituée depuis très longtemps. Et là, je remonte à des considérations qui ne sont pas immédiates et qui permettent de voir que la tâche n'est pas si facile. Donc, l'institution agonistique de l'ordre du monde et l'hégémonie d'une métaphysique de la lutte, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que nous avons tous accepté la phrase mythique de Karl Marx. Karl Marx nous dit « L'histoire de l'humanité est l'histoire de la lutte des classes. » C'est une formule. Elle semble tellement évidente puisque nous bagarrons chacun tous les jours. On l'a accepté. On l'a assumé. C'est-à-dire, agonistique, ça renvoie à la bagarre, à la lutte à mort. C'est d'autant plus profond que, pour ceux qui lisent les textes que vous considérez comme sacrés, la Bible, etc., j'ai été marqué par le fait que là-dedans, il y a un personnage, ça peut être un Joseph, Jacob, j'ignore. On nous le présente comme s'il a bagarré toute une nuit contre Dieu. Il a bagarré toute une nuit contre Dieu. Parce qu'il veut réclamer des bénédictions, et la fin de l'histoire, c'est que Dieu a fini par lui accorder ses bénédictions. On nous présente un monsieur dans la mythologie grecque qu'on appelle Prométhée. Et tout le monde le valorise. Tout le monde est d'accord que Prométhée, c'est l'homme qui a volé, sauf si je traduis mal, Prométhée est l'homme qui a volé le feu de la connaissance au Dieu pour le donner aux humains. C'est normal. C'est-à-dire que on nous a donné le feu de la connaissance, on doit le hisser au stade de Dieu. Mais quand même, il a volé. Et on le célèbre parce qu'il a volé le feu de la connaissance pour venir donner aux humains. Mais j'aurais été intéressé de comprendre qu'il a reçu. On ne dit pas qu'il a reçu, on dit qu'il a volé. En volant, c'était son mérite personnel. C'était sa force. Ça veut dire que le plus fort ou le plus rusé doit pouvoir avoir le pouvoir. Alors que si on nous expliquait qu'il a reçu, dès qu'on reçoit, c'est-à-dire nous sommes dans le régime d'un don, ça veut dire au moins que le pouvoir ne s'arrache pas, le pouvoir se donne. Et derrière le don, il y a l'idée de la dette à l'égard de la communauté, la dette à l'égard du vivant, la dette à l'égard de la transcendance, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée d'une dette, l'idée d'un devoir. Mais si c'est le mérite d'avoir arraché par sa puissance, par sa force, par sa ruse, alors là, pourquoi empêcher finalement à des militaires qui ont les armes de prendre le pouvoir? Puisqu'on ne se rend pas compte qu'on a fini par accepter un imaginaire structuré par en fait, une anthropologie agonistique, donc une vision du monde centrée sur la lutte, la bagarre. Il y a même quelque chose qui finit par m'intriguer. Dans les rituels d'institution des chefs, pour l'autorité chez nous, je vois des gens se livrer à des exercices, on lui donne un chasse-mouche, et on lui demande d'arracher. Et on a l'illusion que c'est une tradition africaine. Il faut arracher, donc il faut arracher. Est-ce qu'on arrache? bien, on vous le donne. Parce que si vous arrachez, ça veut dire que c'est votre puissance, c'est votre bien. Vous recevez quelque chose en don. Et si c'est un don, vous prendrez soin de ce don. Et parce que vous avez une dette à l'égard de la communauté, etc. Donc, cette sorte d'institution agonistique, c'est-à-dire une vision du monde centrée sur le fait que l'autre me menace parce qu'il est différent de moi, en fait, exprime la peur de la différence, la peur de la pluralité. Et en fait, au cœur d'une civilisation que les circonstances de l'histoire nous ont fait rencontrer, nous avons retrouvé au cœur de leur logique cette sorte d'anthropologie, cette sorte de vision du monde. Et cette vision du monde a eu raison de nos traditions les plus conviviales et les plus anciennes. Et donc nous avons accepté que la lutte pour le pouvoir est une lutte à mort. Donc elle est fondée sur le refus de la pluralité. Elle perçoit la différence comme menace. C'est pour ça que finalement, ces sociétés deviennent des laboratoires des exclusions. Démocratie, on court tous vers la démocratie. Et on oublie que dans la démocratie, il y a quand même démos. Et beaucoup croient que le peuple, c'est la population. Parce que démos, ce n'est pas la population. La population est une catégorie statistique et démographique. Alors que le peuple est une catégorie politique subjectivement fondée. Et donc, dans le démos, il n'y avait pas des étrangers, il n'y avait pas des femmes, il n'y avait pas des enfants, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Donc le démos même. Donc le démos vers lequel nous continuons de courir aujourd'hui était fondamentalement sélectif. Et tout le monde n'en faisait pas partie. On verra plus tard ce que pouvait porter la phalange. Alors, ça veut dire que ce n'est pas par hasard que on va comprendre le processus qui va conduire une civilisation particulière à être obsédée par la division. Tout le monde célèbre cette sorte d'éthique du politique, diviser pour mieux régner. Comme si ce n'était pas à déconstruire, comme si c'était, on dit, non, vraiment il faut diviser pour mieux régner. Et vraiment, on lit tout ça, et on lit Machiavel, on dit vraiment pour diviser, on divise les frères, on divise les foyers, on divise les ennemis, on divise les communautés, parce qu'on espère mieux régner. Donc, c'est la division. C'est une civilisation qui valorise la division, qui valorise la séparation, qui est très obsédée à compter, à calculer, et qui est portée à discriminer, et donc finalement à exclure. Et en fait, nous héritons de tout ceci. Puisque finalement, la grande critique aujourd'hui, et pas simplement aujourd'hui, qui a été faite à ces organisations politiques, même dans leur perspective démocratique, c'est que quand même, c'est que si le féminisme est né là-bas, c'est parce que bien sûr le masculinisme s'est constitué comme une force, c'est-à-dire le sexisme a été institué. Nous sommes différents par le sexe. On est jusque-là d'accord, mais l'homme est plus fort que la femme. Et donc l'homme doit dominer, parce que dès qu'on sépare, en fait on finit par différencier, c'est encore bien. Mais après avoir différencié, on risque de discriminer, parce que derrière on va hiérarchiser. Et en hiérarchisant, en fait on entre dans une opération politique d'exclusion. Et donc, on va pas comprendre pourquoi pendant longtemps les figures féminines auront été absentes de la politique d'une civilisation qui a croisé notre chemin et notre histoire. C'est-à-dire que la politique était donc une affaire d'homme, une affaire de masculin, une affaire d'adulte. Et donc vous comprendrez plus tard que, à partir d'un processus historique qu'on va appeler colonialisme, mais commencez pas avant. En fait, le colonialisme, quelque part, fut le moment à partir duquel on a fini par instituer de manière quasi définitive, puisque l'invention moderne de l'Afrique est à situer dans le contexte de la colonisation. Et la colonisation, suisse coloniale, va donc porter avec lui, disons, les philosophies individualistes, les philosophies libéralistes, mais aussi les philosophies bellicistes. C'est-à-dire que l'individu l'individualisme qui est porté par le libéralisme conduit très nécessairement vers l'obélicisme, c'est-à-dire au fait de se faire la guerre, de s'enduituer parce qu'on veut, parce qu'on est différent. Comme on est différent, les autres me menacent parce qu'ils sont différents. Soit je les assimile, soit je les tue. Parce que ça, c'est le grand principe. Et donc, colonialisme va générer cette sorte de politique qui va d'abord s'appuyer sur le paternalisme. Le père, l'Occident a formé l'Afrique, voilà, donc il y a toujours les pères de la nation, bref, paternalisme. Ça veut dire que les sujets sont des enfants. Ce n'est pas des citoyens, mais c'est des enfants qu'on essaye de soigner, d'envoyer à l'école, etc. Le jour où ils veulent contester, parce qu'ils veulent surveiller votre manière de gérer, ils sont réprimés. Ça, c'est fondé sur le paternalisme. Une grande part des dictatures et des processus autocratiques que les pays africains ont connus au lendemain un peu des indépendances étaient structurés par une philosophie paternaliste. Et ce paternalisme, naturellement, était structuré par les logiques masculinistes. Donc, les femmes sont exclues, les enfants sont exclus, etc. Ça ne va donc pas étonner si aujourd'hui on commence à voir émerger les courants féministes ou à faire émerger un grand courant jeuniste. Le jeunisme, c'est l'idée qu'il faut que les jeunes prennent. Donc, finalement, la société politique va se structurer autour des catégories de lutte, des catégories binaires. Les jeunes veulent se séparer des vieux parce que les vieux sont déjà là. Donc, c'est ça le jeunisme. Il y a des gens qui articulent des idéologies sur le fait d'être jeune. Alors que vous traversez, je ne sais pas, deux ans ou après, on est même plus jeune, donc on ne sait pas comment cette affaire peut bien être articulée. Mais ça a un succès. Un succès auprès des jeunes gens qui ont l'impression qu'effectivement, ils attendent leur tour, ils veulent, etc. Il y a aussi ce courant féministe. Les femmes disent, c'est quand même beau, depuis longtemps, nous voulons juste 20% là-bas. Nous voulons quand même aussi avoir un ministre des Finances, nous voulons pas simplement un ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille, c'est maternel, c'est bien, ça prend sur nous, mais on veut aussi. Donc, ces courants existent. Et devant les difficultés et les blocages qu'il y a à articuler de manière logique, de manière apaisée, tout ceci, ça finit donc par bloquer. Et les gens ne croient plus en la politique. Puisque finalement c'est un très grand lieu d'exclusion. Et c'est là où je vais articuler ce que je pourrais considérer comme une proposition, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré que, en fait, lorsqu'on réfléchit à la tradition est un laboratoire immatériel de production de la vie et de création de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Mais on ne retourne jamais à la tradition. C'est-à-dire le passé est passé, mais le passé n'est jamais dépassé. Il est passé parce que chronologiquement il est passé, personne ne peut retourner au passé. Ce n'est ni souhaitable ni possible. En revanche, on peut recourir au passé, et c'est une nuance. Donc, ce n'est pas le retour au passé, mais c'est le recours au passé. Et c'est là où le recours au passé peut finir par nous permettre de réfléchir à la modalité qui peut permettre d'articuler des relations sociales, disons, les plus souhaitables. Et là, on peut interroger certaines traditions politiques africaines. Et on peut se rendre compte que, des variations, il y a quand même quelque part une sacralisation de l'idée de communauté, de l'idée de dette. C'est-à-dire que face à la multiplication des droits aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le culte du droit. Il y a le droit de tout. Le droit des animaux, le droit des arbres, le droit des fruits, il y a même le droit des machines. Etc. Il y a le droit de tout. Et on ne se rend pas compte que le terme de droit est en train de disparaître petit à petit. C'est-à-dire qu'on fait tellement le culte du droit. Et le culte du droit, en fait, divise nécessairement. Pour ça, la lutte, la compétition, la bagarre, tout le monde doit lutter pour avoir son droit. Alors que c'est le devoir qui réconcilie. Parce qu'il nous fait prendre conscience de la dette que nous avons à l'égard de l'autre, du plus faible, du vivant, de quelque chose qui nous est en partage. Et donc je crois qu'on peut retrouver dans ces expériences de vie anciennes quelque chose qui relève, disons, d'un imaginaire de l'hospitalité. On n'a pas le temps de développer dans une autre circonstance. j'avais suggéré à l'auditoire de faire ce petit exercice. Chacun doit réfléchir à comment est-ce qu'on appelle l'étranger chez lui, dans sa langue. On va se rendre compte que la manière dont on nomme l'étranger n'est pas différente de la manière dont on nomme l'invité. Ailleurs, il y a une différence radicale. L'étranger est quelqu'un qui est étrange. C'est pour ça qu'il faut s'en éloigner, s'en méfier, lui fermer la porte, empêcher qu'il ait accès à notre. Mais l'invité, on l'accueille, il a droit à l'hospitalité, on lui adresse une lettre d'invitation. Dans beaucoup de nos langues, vous allez difficilement retrouver une différence entre l'invité et l'étranger. Donc il y a de manière comparée, quelque part, un imaginaire très porté vers l'hostilité et de l'autre part, un imaginaire un peu plus porté vers l'hospitalité. Et ça, c'est tout simplement parce que finalement, quelque chose qui a été démontré par la physique et qui a été soutenu par nos traditions les plus anciennes, c'est que le monde a toujours été pensé comme un ordre géométrique, où se maintient un équilibre entre les forces considérées comme égales. Et si le monde ne s'écroule pas, c'est en raison d'une loi de la pluralité des éléments, de l'équilibre, de la symétrie et de la réversibilité, qui fait qu'aucune puissance, aucune instance, aucun individu particulier ne parvient à dominer les autres. Et dans cette approche, en fait, l'univers n'est plus soumis à l'attraction d'une politique supérieure, fortement hiérarchisée, mais se construit sur une dynamique dialectique où les forces contradictoires se contrôlent et se neutralisent mutuellement. Et on retrouve ces processus dans la plupart, disons, des organigrammes qui structurent le système de pouvoir. Parce que c'est la pluralité, effectivement, qui structure l'égalité, parce que l'égalité repose sur la réciprocité. Et j'achève donc en indiquant que, bien sûr, aujourd'hui, le compatriote Achille Mbembe essaye de réactiver l'agenda démocratique en évoquant la démocratie substantive. Mais il y a beaucoup qui se fatiguent en disant, mais est-ce que c'est un adjectif métro? Il n'y a pas de démocratie sans épithète. Il y a un peu trop d'épithètes. Et mais peut-être qu'il faut changer l'approche. Surtout qu'il y a toujours derrière l'idée de ce démos, c'est-à-dire l'idée de cette chose qui exclut les autres, qui sélectionne certains et pas d'autres, et qui fait que les gens finissent par dire « ça ne sert à rien de voter, ça ne sert à rien de militer, ça ne sert à rien de… » Et ça crée le processus de politisation. En interrogeant donc Godefroy Bidima, notre compatriote, avait bien publié un livre intéressant, « La palabre, une juridiction de la parole ». Et dans ce texte, je crois qu'on peut en convenir, en dépit des expériences diverses, la palabre, c'est le lieu de la parole, le lieu où tout le monde parle. Le lieu où l'on parle précisément pour vider nos contentions. Et le lieu où tout le monde est écouté. Et c'est la palabre qui génère le consensus. Le consensus est davantage valorisé que ces expériences de dissensus qui font qu'en fait chacune de nos élections qui approchent est aujourd'hui toujours l'idée que quand on se suicide, les ambassades finissent de fermer, tout le monde envoie sa famille pour dire attendons voir mais que ça finit, si tout cela ne s'achève pas par un suicide collectif. Et donc, la palabre comme lieu de la parole, la palabre avait pour fonction, bien sûr, de pacifier les relations et de cimenter dans la durée une expérience de confrontation, mais qui débouche sur des situations de consensus. Et je pense que, bien sûr, il nous faut aller au fond de cette question si l'on veut interroger de manière plus féconde la problématique, disons, de la crise de la participation politique. Je vous remercie.